J'aimerais parler sur « Voici les signes » dans Marc chapitre 16 au verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent pour l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà, ce texte, il est dans la parole de Dieu. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant son ascension, lorsqu'il est monté au ciel. Et si Jésus ne les avait pas dites, alors on pourrait en douter. Mais là, elles sont bien écrites dans la parole de Dieu. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur et c'est ce que nous pouvons nous attendre à vivre aujourd'hui. Je reviens un petit peu en arrière. Lorsque Jésus est mort à la croix, en fait, tous les disciples étaient complètement découragés. Rien ne s'était passé comme prévu. Les disciples croyaient que Jésus était venu sur terre pour instaurer le royaume de Dieu. Donc, ils étaient assez positifs au début. Et puis, quand il est mort crucifié, leur rêve s'est effondré et ils ne pensaient pas à la résurrection. La résurrection, c'était en dehors de leur esprit. D'ailleurs, le texte qu'on a lu, à chaque fois que les femmes allaient l'annoncer aux disciples, ils ne le croyaient pas. Ils se révèlent à deux disciples qui vont à la campagne, ils ne le croyaient pas non plus. Personne ne croyait à la résurrection. Alors quand on passe par le découragement, on est un petit peu tous pareils. Eh bien, les choses ne se passent pas comme prévu, alors on a tendance à baisser les bras. C'était le cas des douze. Mais la bonne nouvelle, finalement, est parvenue jusqu'aux disciples, et surtout, ils l'ont vu, parce qu'il a fallu que les disciples le voient en chair et en os pour qu'ils croient. Et c'est là qu'ils ont commencé à croire. Donc j'en arrive maintenant à ce texte, à partir du verset 15, où maintenant Jésus va leur lancer un défi extraordinaire. Quand on regarde les douze, on peut se dire, mais comment Jésus peut leur demander des choses pareilles? Vous aviez Pierre, par exemple, qui était celui qui avait renié Jésus. Il était pêcheur de métier. Il avait suivi Jésus 3 ans, mais il n'avait pas de qualification. Vous aviez Jacques et Jean, qui avaient demandé que le feu du ciel tombe sur les Samaritains. C'était des gens impulsifs. Vous aviez Thomas, qui doutait tout le temps. Vous aviez des gens donc un petit peu en difficulté. Eh bien, c'est à ces gens-là qu'il s'adresse, verset 15, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà le défi de Jésus. C'est un défi immense. Il leur donne la direction. « Vous allez par tout le monde. » Donc, c'est jusqu'à nous aujourd'hui. On en fait partie. C'est une mission mondiale, une tâche qui semble humainement impossible. Mais nous connaissons la suite, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, parce qu'après l'ascension, il y a la Pentecôte, c'est par le Saint-Esprit qu'ils vont pouvoir accomplir ces choses. Ils ne le savent pas encore, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit ici. Mais le Saint-Esprit va leur permettre de réaliser la tâche que Jésus leur dit, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, Jésus leur donne la direction, « Allez par tout le monde. » Voilà, on va dire, la localisation est immense. Et deuxièmement, Jésus leur donne le message, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est annoncer ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et donc, il y a une seule chose à faire aujourd'hui, c'est de croire. C'est ce que Jésus dit après, le verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Parce que le message, il est toujours le même aujourd'hui. On annonce toujours la croix. Jésus est mort à la croix pour effacer le péché. Mais on peut dire que Jésus l'a fait une fois pour toutes et pour tout le monde. C'est fait, c'est acté. Mais voyez le verset suivant, le 16. C'est que bien que Jésus a accompli le 15 et qu'on peut prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas le verset 16 qui dit que celui qui croira dans l'œuvre de Jésus qui est mort à la croix pour effacer ses péchés, il sera pardonné, il sera sauvé. Si vous n'avez pas la foi pour croire, vous ne pouvez pas être sauvé, même si Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Donc Jésus explique ici que la grande œuvre qu'il a faite, qu'on va prêcher dans tout le monde entier, elle est accessible à tous par un seul moyen, par la foi. La foi, c'est indispensable pour être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne lui avez pas donné votre cœur. Et je dirais que même la foi va nous accompagner toute notre vie chrétienne. Regardez le verset 17 maintenant. C'est le verset sur lequel nous allons nous attarder le plus. Les versets 17 et 18. C'est dans la foi que nous allons voir les signes et les miracles s'accomplir. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles. Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas la foi. Donc, la foi, les promesses, si vous voulez, c'est pour ceux qui croient. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui ne croira pas, il n'obtiendra pas la bénédiction. Mais pour la suite, c'est pareil. Celui qui croira et qui s'attend au miracle, il les verra s'accomplir. Mais celui qui ne croira pas, il ne s'y attend pas, il ne verra rien s'accomplir. Regardons le premier signe. Il y en a cinq. Le premier, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si on regarde un petit peu dans l'Ancien Testament, on voit tout de suite qu'il n'y a pas tellement de manifestations de démoniaques, comme dans le Nouveau Testament. On en voit un, c'est Saül, qui était agité par un démon. Mais à part Saül, en fait, on n'en voit pas beaucoup. Par contre, on voit beaucoup de faux dieux, on voit des gens qui font des incantations à Baal, donc certainement qu'ils étaient aussi sous l'influence de démons. Mais en tout cas, on voit peu de délivrance. Par contre, quand on regarde dans le Nouveau Testament, dès le premier message, on est au tout début du ministère de Jésus, imaginez, Jésus a environ 30 ans, il sort de son baptême, il a passé 40 jours dans le Jourdain, il vient faire son ministère pour la première fois dans une synagogue, c'est dans la synagogue de Capernaum, donc on peut dire personne ne le connaît, il est invité à prendre la parole dans la synagogue pour apporter un message de la part de Dieu, et le première prédication, premier message, un démon se manifeste. Donc, dans le ministère de Jésus, ça va être assez phénoménal. Il va y avoir des démons qui se manifestent et Jésus va les chasser. Et voyez ce qu'il nous dit, entre guillemets, ce que j'ai fait, moi, dans la synagogue et au travers de mon ministère, pendant les 3 ans et demi qu'il était sur terre, ce que j'ai fait, vous allez continuer à le faire. Marc chapitre 1, verset 34 dit « Il chassa beaucoup de démons ». Ce n'est pas dit qu'il en a chassé un petit peu ou quelques-uns, mais il en a chassé beaucoup. Donc ça faisait partie de son activité. Une des délivrances les plus spectaculaires, c'est le possédé de Gadara. Le possédé de Gadara, il vivait dans les sépulcres, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville, dans un lieu où personne n'allait. Il vivait dans l'immoralité. Il était dévêtu, il se taillait avec des pierres, donc on voit que ce n'était pas normal. Aujourd'hui, on l'aurait pris pour un fou, on l'aurait mis dans un asile psychiatrique. Mais ce comportement anormal était en fait lié à des démons qui étaient en lui. Lorsque Jésus s'approche de lui, la Bible dit que ce possédé a reconnu en Jésus une autorité supérieure et il s'est prosterné devant Jésus en disant « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus n'avait même pas commencé à parler que déjà ils étaient tourmentés par la présence de Jésus. Ce sont les démons qui parlent au travers de cet homme. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils étaient plusieurs dans la même personne et qu'ils avaient un nom, c'était Légion, car ils étaient nombreux. Mais quand Jésus va les chasser, il leur ordonne de partir dans un troupeau de pourceaux. Les démons obéissent. Et l'homme se retrouve, alors une fois qu'il est délivré, vous le voyez assis, vêtu et dans son bon sens. C'est-à-dire, Jésus l'a restauré physiquement, moralement, spirituellement. C'est une restauration complète. Cet homme ne pouvait pas s'asseoir. Il était constamment agité. Il ne pouvait pas se vêtir. Il était toujours dans la nudité. Il n'avait pas son raisonnement. Il était agité dans son esprit. Bref, c'était une personne tourmentée, agitée par une puissance impure. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a commencé à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de faire ? En mon nom. Et remarquez que Jésus commence les signes par cette introduction, en mon nom. Ce n'est pas en notre nom, ce n'est pas au nom d'une association ou d'une église, mais nous y allons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme c'est lui qui a l'autorité, alors les miracles peuvent s'enchaîner. Chasser les démons, parler de nouvelles langues, boire des breuvages mortels, imposer les mains malades. Si vous voulez l'enchaînement qui vient derrière, vous mettez en titre « En mon nom ». C'est Jésus qui est à la tête. Alors que faire quand nous sommes confrontés à ce type de manifestation ? Dédoublement de personnalité, maladie psychologique, tourmenté, agité, des gens qui se taillent ou qui ont envie de se suicider. Souvent le suicide d'ailleurs est d'origine démoniaque, parce que les démons veulent la mort des gens. Donc ils donnent des pensées de suicide. Ils poussent les gens par exemple à se jeter sur la route, se jeter d'un pont, se jeter du cinquième étage. On entend parfois des familles qui se jettent du septième, huitième étage, se suicident ensemble. Suicide collectif, terrible. C'est pas naturel, ça vient pas des pensées humaines normales. Ce sont des pensées impures de démons qui agissent dans l'esprit des gens. Et si on regarde les premiers chrétiens, ils ont été confrontés à des puissances démoniaques. Par exemple, Paul, l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il allait de lieu en lieu pour prêcher l'évangile, il était souvent confronté à des personnes qui étaient démonisées. Dans Actes chapitre 16 et au verset 17, il était suivi par une femme pythonisse, c'est-à-dire atteinte d'un esprit de divination, qui lui permettait de dire l'avenir et qui gagnait beaucoup d'argent. Car déjà à l'époque, l'occultisme et le fait de dire l'avenir, ça gagnait beaucoup d'argent. C'est encore vrai aujourd'hui, beaucoup d'argent est brassé par ces choses-là, mais c'est l'occultisme. Et elle disait ceci, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. » Et en fait, elle disait ça par l'esprit de Python qui était en elle. « Ils vous annoncent la voie du salut. » C'est-à-dire que les démons étaient obligés de confesser des choses vraies. On voit que les démons ne disent pas toujours des choses fausses. Ils peuvent dire des choses exactes. Là, ils sont obligés de le dire. Mais l'apôtre Paul n'a pas voulu que la vérité soit dite par un ambassadeur du malin. Donc, il a chassé le démon. Et cette femme a été délivrée, mais elle n'a plus pu annoncer l'avenir. Et donc, elle a été licenciée puisqu'elle ne pouvait plus travailler pour ses maîtres. Et les maîtres ont perdu du coup beaucoup d'argent. Ça a créé du désordre dans la ville. Mais aujourd'hui encore, Jésus nous dit la même chose dans Luc chapitre 9, verset 1. Lorsque Jésus a assemblé les 12, le texte dit qu'il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons. Alors Jésus, s'il dit cela et s'il fait cela, c'est parce qu'il sait qu'on va en avoir besoin. Force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Premier signe. En mon nom, ils chasseront les démons. Eh bien, nous pouvons nous attendre encore aujourd'hui à des délivrances. Deuxième signe, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est un signe pour les croyants. On a dit pour ceux qui croient. Alors, le parler en langue, c'est ici d'ailleurs la première mention du parler en langue dans la Bible. Le parler en langue n'est pas encore arrivé, vous le trouverez dans Actes chapitre 2, verset 1 et suivant, où les 120 ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Mais déjà, Jésus prophétise que ceux qui croiront, ceux qui feront confiance à Dieu et qui mettront Jésus à l'honneur à la première place, ils parleront de nouvelles langues. C'est une promesse. Jésus avait déjà promis le Saint-Esprit dans Luc 24, 51. « Voici, dit Jésus, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » C'est-à-dire, « Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Les disciples ne savaient pas que être revêtus de la puissance d'en haut allait coïncider avec les parler en langue qui vont arriver en même temps. Parce que si vous mettez les deux textes en même temps, ils parleront de nouvelles langues et vous serez revêtus d'une puissance d'en haut. En fait, vous voyez Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, c'est le revêtement de puissance associé au parler en langue. Il y a les deux en même temps. Mais les disciples, évidemment, ne le savaient pas. C'était tellement important pour Jésus qu'il l'a dit deux fois, dans Luc 24 et dans Marc 16, parce que cette promesse allait bouleverser la vie des disciples et jusqu'à nous aujourd'hui. Et si Jésus dit que c'est un signe, ben je dirais qu'on peut s'y attendre encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on peut s'attendre à parler en de nouvelles langues. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais c'est bizarre, ça, je n'avais jamais vu ça dans la Bible. À quoi ça sert de parler en d'autres langues? Ben, il y a plusieurs raisons. Moi, j'en mentionnerai que trois. Il y en a certainement d'autres. Mais la première raison, c'est d'attirer l'attention sur le surnaturel de Dieu. Car si vous regardez le premier parler en langue, qui a eu lieu le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, les gens étaient étonnés d'entendre parler des langues étrangères. Ils étaient étonnés, ils étaient attirés par ce qui se passe, parce que ce n'est pas normal, enfin, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et donc ils sont accourus de toutes parts, ils entendaient parler des merveilles de Dieu, il y en avait des langues de toutes sortes. Alors, elles sont toutes mentionnées dans les Actes. Il y a plus de 16 langues qui sont mentionnées dans les Actes des apôtres. Donc, ça attire l'attention sur le surnaturel de Dieu. Il se passe quelque chose, Dieu est en train d'agir. Il y a un pas. Le parler en langue, donc, sert à cela. Deuxième chose, le parler en langue, il sert à prier. C'est très bien expliqué par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens 12 à 14. Chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, c'est surtout chapitre 14 qui a le parler en langue. Chapitre 14, il dit, c'est en esprit, quand on parle en langue, c'est en esprit qu'on dit des mystères à Dieu. On parle à Dieu, et en plus il dit, non seulement vous parlez à Dieu, mais vous vous édifiez vous-même. À quoi ça sert de parler en langue? Ça sert à prier et à s'édifier soi-même. Paul va même jusqu'à dire qu'il désire que tous parlent en langue. Et il dit même, moi je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez que c'était quelque chose de très fréquent, et puis que Paul le faisait abondamment dans son culte personnel. Il dit que dans l'Église, il préfère dire des paroles audibles pour que tout le monde comprenne, bien sûr, à moins que le parler en langue soit interprété. Mais dans son culte personnel, il aime beaucoup utiliser les langues, il dit qu'il prie beaucoup en langue. Pourquoi ? Parce que quand on prie en langue, on est certain de prier selon la volonté de Dieu et les choses que Dieu agrée. Et la troisième domaine, à quoi servent les langues, troisième domaine, c'est les langues, elles servent à donner un message de la part de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une assemblée comme celle-ci et que tout d'un coup, pendant la louange, quelqu'un reçoit un parler en langue, ben c'est un message de la part de Dieu. Sauf que ce message de la part de Dieu, s'il n'est pas interprété, à part que si une personne comprend la langue dans laquelle il est prononcé, ce qui arrive parfois d'ailleurs, mais ce qui n'est pas du tout la majorité des cas, ben, le message n'aboutit pas puisqu'on ne le comprend pas. Ça m'est arrivé pour ma part parce que moi je suis né dans une famille chrétienne, mais je me suis converti qu'à 17 ans. Et c'était justement suite à un parler en langue. Un parler en langue qui a attiré mon attention, c'était dans un culte. J'ai rien compris au parler en langue. Mais je savais que Dieu pouvait parler à travers un parler en langue. Donc il y avait bien un message de la part de Dieu. Sauf que personne ne comprenait rien, mais il a été interprété par une autre personne. Ça s'appelle le don d'interprétation des langues. Et grâce au don d'interprétation des langues, j'ai pu comprendre le parler en langue. Et là, c'est comme si Dieu me parlait directement. Il a décrit ma vie, comment j'étais à l'époque, comment j'étais dans le péché, comment il fallait que je choisisse aujourd'hui. Et là, j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné mon cœur au Seigneur ce jour-là. Donc, un parler en langue, pour qu'il aboutisse, il faut qu'il soit interprété. Si c'est un message de Dieu, si c'est un message de la part de Dieu, je dirais qu'il doit être interprété par un don d'interprétation. Imaginez que la personne parle en langue, dans le même culte où j'étais, elle donne son parler en langue et qu'il n'y ait pas d'interprétation. Eh bien, je n'aurais pas compris le message. Je n'aurais pas pu entendre le message de Dieu. Vous voyez que l'interprétation, elle est très importante pour que le message de Dieu aboutisse. Le parler en langue à lui tout seul ne suffira pas pour se faire comprendre. Il faut le don d'interprétation. Mais vous avez déjà au moins trois bonnes raisons pour parler en langue. Ici, c'est attirer l'attention du surnaturel de Dieu, nous aider à prier et donner des messages de la part de Dieu. J'en arrive au troisième signe. On a dit qu'on en a cinq. Le troisième, c'est « ils saisiront des serpents ». On sait que Jésus a envoyé 70 disciples en mission en leur disant, c'est dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc nous savons que les serpents, c'est une image pour les choses du malin. Le diable s'est manifesté sous l'apparence d'un serpent. Il a utilisé un serpent pour séduire Adam et Ève, et pousser à la faute. Dans l'Apocalypse, vous voyez le serpent ancien, le dragon, tout ça, ce sont des images de Satan. Le cobra, nous savons qu'avec son venin, il peut même tuer un éléphant en seulement 3 heures. Le venin est tellement puissant que l'éléphant n'a aucune chance de survie. Même un chrétien comme Paul s'est fait piquer par une vipère. Lorsqu'il avait échoué à Malte, il a pris du bois pour faire du feu, et il pleuvait, il a pris du bois, et de ses broussailles est sortie une vipère qui lui a mordu le bras, et la vipère était restée attachée à sa main, ce qui montre que les crocs étaient vraiment plantés dans sa chair. Et lorsque les habitants de l'île ont vu ça, ils ont dit, ça y est, il s'est fait mordre par un serpent, et c'était un serpent très mauvais. Les habitants de l'île l'avaient reconnu, ils se sont dit, il va mourir. Mais Paul n'a pas écouté cela. Acte chapitre 28, verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ils saisiront les serpents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Paul qui a été secoué par le serpent, mais c'est Paul qui a secoué le serpent. Voilà le miracle de Dieu. Le venin n'a eu aucun effet sur lui. Alors les gens de l'île, ils attendaient parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu était à l'œuvre. Alors ils s'attendaient à le voir mourir parce que le venin, il faut un certain temps. Il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps que le venin atteigne tout le corps. Ils ont attendu longtemps. Et Paul n'est pas décédé. Il y a des gens qui vont vous voir et ils vont dire, pour vous, il n'y en a plus pour longtemps. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez rester couché, vous ne pourrez pas vous relever. N'écoutez pas ces paroles. Parce que si Paul avait écouté les paroles de ces gens, si Paul avait écouté ces gens qui disaient, Paul, tu n'en as plus pour longtemps, tu as été piqué par le serpent, tu vas mourir. Il fait son testament, il range ses affaires, il va mourir. Voilà. Il n'a pas écouté ces paroles, mais il a préféré écouter la parole de Dieu. À un moment donné, il ne faudra pas écouter les paroles des gens, il faut écouter la parole de Dieu. Ils saisiront les serpents. Et il a eu raison. Ne croyez pas ce que les gens disent de vous ou pensent de vous, mais revenez toujours à la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Dieu fait? Regardez Psaume 91, verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est une sorte de serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tout ça, ce sont des promesses que nous devons connaître. Car quand les serpents viendront, parce qu'ils sont toujours là quelque part, peut-être comme Paul, à un moment donné inattendu, un serpent vous piquera, et je ne parle pas d'un vrai serpent, mais je parle de l'ennemi de notre âme qui se déguise sur le serpent, il va vous attaquer et il va vous injecter son venin. Son venin, ce sont ses mauvaises pensées, ses paroles négatives, le doute qu'il veut insuffler en vous. Eh bien, à ce moment-là, c'est à vous de le secouer et de le rejeter au nom de Jésus, car ils saisiront les serpents. Quatrième signe, c'est le breuvage mortel. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est un signe qui est cité parce qu'à l'époque, en fait, on utilisait beaucoup le poison pour se débarrasser des personnes qu'on avait envie de tuer. On mettait du poison dans ses aliments, par exemple, dans le verre, soit de vin ou de boisson, on mettait du poison. Et c'est pour ça qu'à la cour, une des places les plus importantes, c'était les chansons, celui qui sert le vin. Et il devait goûter le vin avant de le donner au roi, parce que s'il y avait du poison dans le vin, il fallait vérifier avant. Et si les chansons étaient toujours en vie, c'est que le vin était comestible. Aujourd'hui, effectivement, cette méthode est peut-être moins utilisée, mais le poison, on va dire le poison spirituel, il est toujours répandu. Le poison spirituel, c'est quoi? Ce sont des paroles de critique, de jugement de ceux qui vous calomnient, qui vous injurient, qui vous font du mal. Ils veulent vous détruire. Ils ont préparé pour vous un breuvage mortel, en fait. Ils veulent que vous buviez à cette coupe-là parce qu'ils veulent vous nuire. Ça peut être au travail, des gens qui ont fait un plan pour vous évincer, ça peut être dans votre famille, des gens qui ne vous aiment pas. Ils ont fait un plan pour vous détruire. C'est ça leur breuvage. Mais vous allez boire la coupe, mais ce breuvage ne vous fera point de mal. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dans cette coupe. Vous ne savez même pas qu'on a voulu vous tuer. Le texte y dit, si ils boivent quelques breuvages mortels, évidemment qu'ils ne savent pas que le breuvage est mortel, sinon ils ne l'auraient pas bu, il ne leur fera point de mal. Ça veut dire que Dieu va anéantir le poison qui est dans le breuvage. Nous connaissons un autre breuvage. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, c'est la coupe de bénédiction. Car quand nous prenons le pain et le vin, qu'est-ce que nous faisons? Nous communions à la coupe du Seigneur. Ça, c'est un breuvage. C'est pour ça que je vous encourage à prendre la Sainte Cène tous les dimanches. Paul dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» Voilà ce qui se passe. Nous prenons un breuvage dans une coupe. Ce breuvage, c'est le sang de Christ. Évidemment, c'est symbolique. Ça représente le sang de Christ, mais nous sommes en communion spirituellement avec le sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors ce verset, il est très important. Parce que il y a des coupes que le monde propose, c'est du breuvage mortel, mais l'Église, elle a sa coupe, c'est une coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction qui donne la communion au sang de Christ. Ça veut dire quand vous prenez la coupe du dimanche, le pain et le vin, vous êtes directement en communion avec le sang de Christ, spirituellement, qui vous couvre, qui vous protège, et qui est efficace dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel connaît l'efficacité du sang de Jésus. Mais les démons aussi ont leur coupe dans 1 Corinthiens 10, 21. Vous voyez, Paul, il mentionne les deux. Il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur, c'est celle qu'on prend le dimanche, et la coupe des démons. Il y a une autre coupe, celle qui est pleine de breuvages mortels. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La coupe de malédiction, elle existe, c'est l'idolâtrie, c'est le monde et ses plaisirs, c'est un breuvage destructeur, ce sont ces breuvages mortels, eh bien, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en garde. Et nous, nous avons l'antidote qui est la coupe de bénédiction. Quand nous prenons le pain et le vin en mémoire de Christ. Je termine avec le dernier signe. Ils imposeront les mains aux malades, cinquième signe, et les malades seront guéris. Eh bien, Jésus, comme dernier signe, il dit qu'il y aura la guérison des malades. Il existe beaucoup de possibilités de guérison, même naturelles. On sait que le corps a des propriétés pour s'auto-guérir, mais ça, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Dans une certaine mesure, on a un système de globules blancs, par exemple, qui lutte contre les maladies quand elles arrivent dans notre corps. Je lisais un article qui l'explique très bien ici. Je vous donne un petit extrait. Le système immunitaire, donc ce que Dieu a créé qui est en nous, fonctionne un peu comme une forteresse. Les agresseurs extérieurs, ce sont les bactéries, les virus et les champignons, qui tentent d'y entrer, doivent d'abord faire face à un mur d'enceinte, c'est la peau et les muqueuses. Dès que l'un de ces envahisseurs arrive à passer dans notre corps, une véritable armée passe à l'attaque pour tenter de le détruire. Une première ligne de soldats, les macrophages et les globules blancs, vont stopper l'ennemi. On ne s'en rend pas compte, mais cette armée passe son temps à nous débarrasser des intrus. Alors Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés avec un corps qui a des propriétés pour que dès qu'il y a des virus et des maladies, si le corps est normalement constitué, alors il y a une réaction qui se met en place pour nous débarrasser des intrus. Mais au-delà des possibilités naturelles qui sont propres de chacun, il y a la grâce de Dieu, les guérisons divines. Soit Dieu accélère un processus, par exemple, il faudrait des années pour que cette personne guérisse, et elle est guérie en quelques mois, quelques semaines ou quelques heures. Ou soit il recrée des cellules endommagées. Imaginez que la cellule a complètement disparu, eh bien Dieu est capable de recréer ce qui n'existe plus. Et les premiers croyants aussi s'attendaient aux guérisons, comme nous aujourd'hui. On le voit très bien quand Pierre et Jean vont, par exemple, au temple, à l'heure de la prière, il y avait un boiteux qui était là. Et ce boiteux faisait l'aumône, et Pierre et Jean disent « Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Il s'attendait à la guérison de cet homme, et il dit bien « Au nom ». J'aime bien la... c'est dans Actes 3:6. « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et rappelez-vous ce qu'on avait dit au verset 17, « En mon nom, ils chasseront les démons, mais en mon nom, c'est le titre. » Et Pierre l'a bien compris, « Au nom de Jésus-Christ. » Mais Jésus-Christ en avant, bah, quand on regarde ce boiteux, on aurait pu lui donner de l'argent, on aurait pu lui donner des aides sociales, on aurait pu l'aider à avoir un lit meilleur, etc. Mais la guérison, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est du domaine du surnaturel. Quand on pense qu'on a fait notre maximum, car les gens lui donnaient de l'argent en passant, eh bien, il y avait plus pour lui. Acte 3, verset 7, « En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles furent fermes, et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. En mon nom, les malades seront guéris. » Il y a un paramètre qui nous échappe, c'est la souveraineté de Dieu dans la guérison. Car cela nous humilie, et toute la gloire revient à Dieu qui guérit quand il veut. Parfois, nous prions pendant des mois, des années, et le miracle se produit. Parfois, comme dans ce cas ici, le miracle est rapide. Mais Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Il nous revient de persévérer dans la foi et la prière. Voilà, je voulais vous laisser devant les yeux ces cinq signes. Je dirais qu'ils sont toujours d'actualité, qu'ils sont pour nous, et que le Seigneur ne nous demande pas à nous de produire les signes, parce que ce serait trop difficile. Ce serait trop difficile de chasser les démons par nous-mêmes, de parler des langues comme ça, de saisir des serpents, de boire des breuvages, c'est trop difficile. Mais ce qu'il nous demande, c'est de croire. Et au verset 20, il dit, Marc 16:20, « Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles » qui l'accompagnait. Si je comprends bien, c'est le Seigneur lui-même qui produisait les signes. L'Église n'était que le canal mais le Seigneur confirmait la parole par des miracles. On va prier un instant. Merci pour ces signes que tu as prophétisés et qui, nous le croyons, sont pour l'Église d'aujourd'hui, avec toutes les bénédictions qui sont à notre portée, Seigneur, que tu veux, afin que nous puissions progresser et grandir dans ton œuvre. Oui, nous voulons continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, annoncer à toute la création, en tout lieu, en toute occasion qui nous est donnée, à toute personne. Ta parole dit « à toute la création ». Et il y a encore tellement de personnes qui n'ont pas encore accès à ce message. Et nous prions pour que l'Évangile se répande encore. Merci pour la confirmation de ta parole par des signes, par des miracles, par des prodiges, dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Parce que ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Nous restons confiants, Seigneur. Nous voulons être cette Église avec cette vision des signes, des prodiges et des miracles que tu veux pour nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas les quitter de nos yeux, Seigneur. C'est la feuille de route que tu as mise devant nous pour que nous puissions avancer. Alors, Seigneur, confirme ta parole encore aujourd'hui ici à Toulouse, dans les contacts que nous avons, dans les personnes pour qui nous prions, avec notre propre famille, avec nos voisins, avec notre entourage, afin que des personnes puissent passer de la mort à la vie et puissent expérimenter toutes ces bénédictions et ces grâces. Dans le nom de Jésus, Amen.